Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, je vous lis les versets 4 à 7. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Voilà, frères et sœurs, le texte qui nourrira notre méditation ce matin. Je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières, le petit livre bleu pour certains, au cantique 400, nous allons chanter les strophes 1, 2 et 3. Seigneur, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une nouvelle rencontre avec ton évangile sous une autre lumière. Que jamais le passé, les schémas tout faits ne nous enferment, mais que par ton esprit nous soyons prêts à répondre à ton appel comme de vrais enfants d'Abraham. Chers frères et sœurs, il y a quelques jours se tenait le sommet de Rio, 20 ans après le premier sommet réunissant des représentants des États pour envisager des politiques bénéfiques pour l'avenir de la planète. La nécessité d'une convergence entre l'environnement et le développement social et économique avait été posée. Mais 20 ans auparavant, aucune décision n'avait véritablement été prise. Le nouveau sommet de Rio vient donc d'avoir lieu et le président du Muséum national d'histoire naturelle, Gilles Boeuf, commente ce nouveau sommet de la Terre en ces termes « manque de courage et égoïsme ». La messe est dite. De fait, l'égoïsme est une force assez gigantesque et qui semble être le principal obstacle à une prise en compte harmonieuse des questions de l'eau, de l'énergie, de la biodiversité, de l'économie, du climat. L'égoïsme conduit, vous le savez bien, certains États à refuser de limiter la pollution au nom de l'intérêt économique de leur souci de croissance industrielle, mais aux dépens d'équilibres internationaux. Pour autant, le constat que fait le président du Muséum national ne me semble pas être forcément un drame. L'égoïsme, une force considérable. Mais peut-être l'égoïsme est après tout une véritable source inépuisable, voire une véritable énergie renouvelable. Et je crois que c'est le point de départ de la réflexion biblique. Il me semble que l'auteur du récit de la Genèse, plutôt que de rentrer dans un face-à-face avec l'égoïsme, préfère tenir compte de l'égoïsme et en faire une énergie positive. Voyons comment cela fonctionne, comment, me semble-t-il, l'auteur de ce récit de la Genèse envisage la question écologique à partir du point de vue particulier de l'homme, et plus précisément de l'homme saturé par son égoïsme. Vous avez certainement le récit de Genèse 1 en tête, cette grande vision cosmologique qui intègre l'ensemble de l'univers. Ici, Genèse 2, le deuxième récit de la création, centre tout sur l'homme, qui est même l'alpha, puisqu'il n'y a rien avant l'homme, pas même un petit bout d'herbe, et l'oméga, puisque tout sera destiné à être soumis à l'homme. Ce récit est donc pensé à partir de l'homme, et je dirais de l'homme exclusivement. On tient compte de son égocentrisme. Il y a là, je trouve, cette intuition intéressante, l'intuition que l'homme est en passe de devenir la principale force géologique à l'œuvre dans le monde. Et vous voyez, bien avant le 21e siècle, bien avant notre an de grâce 2012, qui a consacré l'appellation, il me semble que le texte biblique suggère que la bonne manière de nommer la période au sein de laquelle nous vivons, après le Miocène, qui consacre l'apparition de la lignée humaine, après le Pliocène et le Pléistocène, qui est marqué par l'extinction des mammifères géants, après l'Holocène qui se caractérise par la sédentarisation et l'agriculture, la bonne manière de nommer la période dans laquelle nous vivons, c'est l'Anthropocène. Et cette appellation a été validée au début de l'année par les stratigraphes londoniens qui font référence en la matière. Anthropocène parce que l'homme est ce qui influence le plus l'évolution de la Terre. Le deuxième récit de la Genèse tient compte de ce trait caractéristique et au lieu de dire que la nature environnante doit être respectée en essayant de faire des gesticulations pour que les gens prennent conscience que l'environnement c'est important, eh bien l'auteur de ce récit change de référentiel. Et il pose qu'il n'y a pas l'homme et son environnement qui seraient comme deux lutteurs aux prises l'un avec l'autre. La question est de savoir lequel des deux l'emportera. La Genèse raconte que l'homme est issu de la nature, qu'il est de la même nature, qu'il est constitué de ce qui compose la nature, qu'il n'y a pas d'un côté l'être humain et de l'autre la nature, mais que la nature est la peau de l'homme, sa chair. Adam, puisque c'est de lui dont il s'agit dans le récit de la Genèse, Adam doit son nom à la matière de laquelle il est issu, Adama, la terre. Si Adam s'appelle Adam, si l'homme en tant qu'être humain s'appelle Adam dans le récit de la Genèse, c'est parce qu'il est issu de Adama, la terre. C'est la raison pour laquelle Chouraki traduit non pas Adam par Adam, mais par glébeu, et au fond, il ne fait pas preuve d'un grand radicalisme, on ferait mieux de traduire par boueux, voire par bouseux. Ce changement de perspective a des intérêts majeurs, au moins deux. Le premier intérêt est de nous rendre solidaires de la nature, qui n'est plus notre environnement, mais une part de nous-mêmes. La nature n'est pas seulement utile pour s'alimenter, pour se protéger, pour produire des biens de confort. La nature, c'est ce qui nous permet d'être vraiment. Nous sommes des molécules qui font partie du tableau périodique des éléments chimiques établis par Mendeleïev. Supprimez une case, vous blessez l'homme. Supprimez une case, vous atrophiez l'être humain. Et cela, l'égoïste peut le comprendre. Dégrader la nature, ce n'est pas dégrader l'environnement, c'est blesser l'homme. C'est se mutiler soi. C'est nous dégrader dans notre possibilité d'être, nous qui sommes nature. Et réciproquement, du coup, ce que l'on fait à l'homme, c'est à la création qu'on le fait. L'injustice sociale a des effets immédiats et à moyen terme sur la planète. Les pauvres détruisent par nécessité tant qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Il y a un deuxième intérêt à cette perspective égoïste. C'est de nous révéler que tout ce que nous faisons en faveur de la nature a un impact bénéfique sur nous et donc sur l'ensemble. Autrement dit, il n'y a pas de petits gestes. Chacune de nos actions est en interaction avec l'ensemble. Et le bien que nous faisons ici a des répercussions au loin et sur nous-mêmes. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu de laisser à d'autres le soin de s'occuper de ces affaires-là. Ce que nous faisons a aussi un impact. Et le bien que nous faisons est donc également bénéfique. Ce n'est pas rien. La Genèse pose ici les bases d'une éthique de la responsabilité qui fait de chacun de nous une partie prenante de l'état du monde. Et nous pouvons trouver là un fondement à la radicalité de l'éthique de responsabilité, à l'éthique du respect de la vie telle que Albert Schweitzer l'a développée, par exemple. Ceci étant, les petits gestes ne suffisent pas. Soyons clairs, ce n'est pas le tri sélectif qui nous évitera les grandes catastrophes écologiques. C'est la raison pour laquelle ce récit de la Genèse va opérer un deuxième décalage, un deuxième changement de référentiel. Après nous avoir pris par la main avec notre petit égoïsme sur mesure, après avoir mis fin à l'idée selon laquelle il y aurait nous et l'environnement, après avoir mis en évidence notre solidarité avec l'ensemble de la création, ce récit change de référentiel pour penser à hauteur de l'universel, non plus simplement à partir de nous-mêmes, mais aussi en fonction de l'ensemble. Notre petit égo est appelé à se mesurer à la question de l'éternel, c'est-à-dire à la question de l'être même, de ce qui fonde l'être. C'est en racontant que l'homme est au bénéfice du souffle divin que la Genèse accomplit ce petit changement de perspective. La respiration de l'éternel est insufflée en l'homme. C'est là une manière de dire que l'homme est mis en relation avec l'humanité tout entière et pas uniquement de manière horizontale, mais aussi de manière verticale, c'est-à-dire de manière qualitative, en rappelant que nous avons certes une condition commune, mais aussi en disant que l'homme est vraiment humain lorsqu'il est en relation avec l'Éternel, autrement dit, avec ce qui rend l'être possible, avec ce qui nous permet de penser l'être véritable. L'homme n'est pas simplement un dispositif biologique, c'est aussi un être symbolique, capable de penser ce que signifie être, à la condition qu'il se décentre de lui-même et sorte de ses schémas individualistes. Ce que ce récit dit avec le souffle divin, la tradition juive, et plus spécifiquement ashkénaze, le dit avec un autre récit tout à fait intéressant. C'est la légende du golem. Le golem, c'est une sorte d'Adam. C'est de la terre, un peu informe, à partir de laquelle un rabbin peut donner la vie, en faire un être animé capable de rendre service. Pour donner la vie à cette masse informe, il s'agit d'écrire sur le golem « Emet ». En hébreu, ça veut dire « vérité ». Aleph, Mem, Tav. Selon une tradition, il arriva qu'un golem fut blessé et que la première lettre fut arrachée, effacée. Il manquait donc le Aleph. Il ne restait plus que le Mem et le Tav, ce qui en hébreu signifie mat, la mort, comme dans échec et mat, chat, mat, le roi est mort. Cela signifie que la perte du Aleph, qui est aussi l'initiale de El, le nom commun de Dieu, la perte de cette première lettre de l'alphabet, l'Aleph c'est ce qui est au fondement de l'alphabet hébreu, eh bien la perte de ce fondement entraîne la perte de la possibilité de maintenir la vie. La perte du fondement conduit à la mort. Et de fait, dans cette tradition, on raconte comment ce golem devient vecteur de mort. Cette histoire de la tradition ashkénaze, ou ce récit biblique, ont pour fonction d'être des procédés mnémotechniques pour nous, pour nous rappeler qu'à chaque fois qu'on cesse de placer notre existence finie face à l'ultime, face à l'inconditionné, face à la vérité articulée à ce qu'il y a de plus fondamental pour nous, et Esther rappelait plusieurs fois la question des fondamentaux, on devient soi-même agent de mort. Lorsque notre vérité n'est articulée que sur nous-mêmes et pas sur quelque chose de plus universel, nous devenons vecteurs de mort. Lorsqu'on cesse de considérer que nous ne sommes ni l'alpha ni l'oméga de l'histoire, lorsque nous nous contentons de notre vision du monde, lorsque nous évitons le débat contradictoire, nous devenons vecteurs de mort. Pour le dire plus calmement peut-être, ces récits nous invitent à un peu d'humilité. Nous ne sommes pas capables de créer la vie. Nous ne sommes pas capables de nous placer au fondement de la vie. Oui, nous savons procéder à des fécondations in vitro, nous savons interroger l'ADN, mais le 29 septembre 1991, quatre hommes, quatre femmes, s'enferment dans un espace de 16 000 mètres carrés nommé Biosphère 2. Nous sommes dans le désert du Nevada. Il s'agit d'une serre isolée de l'atmosphère dans laquelle des chercheurs ont installé un désert, des marais, une mer, une savane, une forêt tropicale, une zone de culture, une atmosphère. Et voilà, l'oxygène vient à se raréfier. Les invertébrés et les insectes pollinisateurs meurent. Des membres de l'équipe tombent malades. Il faut se résoudre à stopper cette expérience de 200 millions de dollars qui met en évidence l'importance de bien s'occuper de Biosphère 1, notre Terre. Parce que nous ne sommes pas capables de fonder la vie. Nous ne sommes pas capables de produire la vie. Se placer face à l'ultime, refuser les vérités partisanes, ne pas s'enfermer dans des schémas univoques, c'est également nécessaire pour ne pas faire de la nature une nouvelle divinité qui aurait toujours raison contre nous. La nature n'est pas plus douée que nous. Le 21 août 1986, nous sommes au Cameroun. Le lac Nyos est le lieu d'une éruption de gaz. 1700 morts à cause d'un dégagement de CO2. 1700 morts qui ne sont pas les victimes d'une défaillance nucléaire, de chercheurs qui se prennent pour des apprentis sorciers ou de consommateurs irresponsables. Simplement, la nature peut être un danger pour elle-même. Et quand vous vous promenez dans des endroits où la main de l'homme n'est manifestement pas passée, il n'est pas toujours prudent de boire l'eau qui est là, à l'état naturel. L'eau naturelle n'est pas nécessairement propre à la consommation. Il est bien nécessaire souvent que la science de l'homme intervienne en bien des lieux, ce qui, j'en connais au moins un qui ne sera pas très heureux de ce que je vais dire, ce qui est loin de l'idéal proposé par Jean-Jacques Rousseau, qui refusait toute modification de l'état de la nature au prétexte que toute intervention sur la nature déforme la nature. Bref, sortir de l'ère technologique, se détourner de la science ne serait pas une solution. Et puis il y a d'autres logiques partisanes qui montrent des dénis de vérité, des dénis qui semblent ne servir qu'à des fins personnelles, une manière d'exister dans le paysage médiatique. On se souvient des débats autour des antennes relais pour les téléphones mobiles. Ces antennes ont été l'objet de furieuses protestations, et d'ailleurs elles le sont encore dans le métro parisien. Alors que les antennes relais pour téléphones mobiles émettent moins d'énergie que les antennes relais pour la télévision, qui, elles, ne posent pas de problème. Résultat des courses, la puissance des téléphones mobiles a été augmentée pour compenser la diminution des antennes relais. Moralité, nous avons à proximité une source d'énergie plus importante que ce qu'elle n'aurait été autrement. Rien de tel, à vrai dire, qu'une joyeuse famille habitant Saint-Cloud et se plaignant de problèmes de santé survenus depuis l'installation d'une antenne relais de téléphone qui, on le découvrira, n'a été branchée que 2 mois après par l'opérateur pour jeter le soupçon sur l'impact de l'homme au sein de la création. Fort heureusement, des exemples montrent que des efforts convergents entre scientifiques, politiques, industriels, citoyens, concourent à améliorer sérieusement la situation d'ensemble. Parce qu'une mobilisation sérieuse avait été entreprise après qu'on eut repéré les fameux trous dans la couche d'ozone, on a pu constater que celle-ci s'était effectivement renforcée quelques temps après. Et si vous avez encore quelques envies de diviniser la nature, sachez que le renforcement de la couche d'ozone s'est fait indépendamment de toute action des vaches, qui pourtant sont de grandes donatrices de gaz à effet de serre et qui n'avaient rien mesuré à l'enjeu de la situation. Comme le disait Talleyrand, en politique, ce qui est cru devient plus important que ce qui est vrai. Alors les auteurs bibliques s'efforcent que ce qui est cru soit la vérité. L'auteur biblique s'efforce ici de remettre la vérité au cœur de la sagesse de l'homme et d'en faire un motif de croyance, un motif de confiance. L'auteur biblique agit de telle manière que nous sortions de nos logiques personnelles individualistes qui s'avèrent souvent mortifères, parce que l'auteur biblique, déjà à cette époque, savait que l'erreur et l'ignorance coûtent cher. La fragilité de l'existence, la fragilité de la terre sont suffisamment évidentes pour ne pas faire comme s'il n'y avait rien à faire. L'homme semble effectivement bien être celui qui a le plus d'impact sur la planète. Pour certains, cela pourrait constituer une menace terrible, irréversible. Dans la perspective biblique, ce n'est pas une menace. Car lorsqu'il accepte sa divine humanité, comme c'est raconté dans cet épisode de la Genèse, l'homme devient capable. Capable finalement de mettre en œuvre ce programme que Jacques Ellul avait résumé en une formule, penser globalement, agir localement. Amen.